4% à 129 yens 79. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 lui progresse de 0,64% à 3210 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci beaucoup Antoine Verlin. Il est 14h03, vous écoutez France Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélina. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Mahomet.
أشهد أن محمد رسول الله
مئة ans d'histoire. En 622, à Médine, le premier muezzin de l'histoire lançait cet appel à la prière devant une poignée de bédouins. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Aujourd'hui, dans toutes les mosquées du monde, 1 milliard de musulmans répondent au même appel en se tournant vers le lieu où est né l'islam et celui qui l'a fondé il y a plus de 13 siècles, Mahomet. Mais en cette année 622, personne ne pouvait imaginer qu'en Arabie, au cœur d'une des régions les plus désertiques du monde, une religion était en train de naître et qu'en moins d'un siècle, elle allait se répandre sur un immense empire qui allait de l'Inde à l'Espagne en défiant les plus grands souverains de l'époque.
Pour toi, Bacchus, patriarche d'Alexandrie.
Kisra, empereur de Perse, Mahomet adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut.
Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller?
Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, accepte l'islam pour ton salut.
Il parle d'un nouveau prophète en Arabie.
Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité.
Jean Prieur, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous venez d'écrire un livre sur Mahomet, le fondateur donc d'une religion dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais sans toujours savoir ni où, ni quand, ni comment elle est née, ni même la vie de celui qui l'a fondée. Dans une région du monde, on vient de l'entendre, qui était dominée par deux grands empires, qui étaient l'Empire Perse et puis l'Empire Byzantin. Et on oublie aussi, et surtout, qu'avant d'être des musulmans, les Arabes pratiquaient d'autres religions. La Kaaba, hein, le sanctuaire, le lieu saint de l'islam, existait avant Mahomet. Il était même fondé, je crois, par Abraham.
Oui, la tradition dit que c'est que la Kaaba a été édifiée par Abraham, aidé de son fils Ismaël, donc qui est né avant Isaac. Alors à cette époque-là, en effet, il y avait des quantités d'idoles qui étaient stockées à la Kaaba. Étant donné que la Mecque drainait des gens venus de toutes les parties du monde d'alors, ces gens-là étaient bien contents de retrouver les statues de leur dieu. Et alors, à la Kaaba, il y avait même une icône de Jésus et de la Vierge. Mmh. Et au moment où Mahomet a détruit toutes ces statues, il a voulu protéger la Vierge et l'enfant.
Autrement dit, donc, il y avait déjà, effectivement, des religions pratiquées. Il faut s'imaginer toujours qu'au fond, les Arabes ont toujours été musulmans. L'islam étant né au 7e siècle, évidemment. Oui. On oublie un peu quelles étaient les religions pratiquées. Le christianisme, le judaïsme aussi, était pratiqué en Arabie à l'époque, Jean Prieur.
Absolument, oui. Il y avait beaucoup de villes juives et aussi des colonies chrétiennes. Et surtout, dans le Yémen. Et puis tout au sud, il y avait un empire chrétien, l'Éthiopie.
Alors, Mahomet, lui, né à la Mecque en 570, rien a priori ne le prédestine à devenir un jour le prophète de l'islam. Pendant 40 ans, il était commerçant, hein, il était conducteur de caravane.
Il a d'abord été conducteur de caravane, comme son oncle Abou Talib, et puis il a été engagé par cette veuve, Khadija.
La première femme de Mahomet.
Sa première épouse, qui était riche et qui avait un commerce très, très florissant. Ses caravanes partaient dans toutes les directions, c'est-à-dire vers le Yémen, au nord vers Damas, vers les ports de la Méditerranée aussi, et puis aussi vers la Perse.
Alors il a 40 ans lorsque, en méditant tout à côté de la Mecque, l'ange Gabriel lui apparaît, lui annonce qu'il est le messager de Dieu. Oui. Ce qui est important, c'est que dans l'islam, faut pas oublier, c'est que Mahomet n'est ni Dieu ni son fils, comme dans le christianisme, c'est simplement au fond un intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, c'était un mystique, parce que avant d'avoir la vision de Gabriel, il se retirait dans une caverne du mont Hira, il priait, il jeûnait, il méditait, et c'est au bout d'un certain temps que l'ange Gabriel lui est apparu. Enfin, Gabriel qui est en somme l'ange des annonciations.
En 610. Et alors, Gabriel qui le charge au fond de messages venant de Dieu. D'ailleurs, qui les transmet donc par oral, par récitation. D'ailleurs, Coran vient de couronne, c'est du
oui,
mot arabe couronne.
Ça
veut dire réciter. Alors, ces révélations, il en parle bien sûr, Mahomet en parle à son entourage, mais il ne convainc pas grand monde au début. Il n'a auprès de lui qu'une poignée de fidèles qui se heurtent.
Au début, ils ne sont que 5, absolument. Les 5 doigts de la main, oui.
Et qui se heurtent au scepticisme des notables de la Mecque.
Mahomet ne sait ni lire ni écrire.
Non, mais il parle. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes.
Quel Dieu ?
Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran.
Est-ce que Mahomet se rend compte ? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il ne faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique, que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici, sous mon toit, à Jérusalem, ou même sur la Lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre.
On ne peut pas acheter et vendre Dieu.
Alors au début, on vient de l'entendre, Jean Prieur, il y a plutôt le scepticisme, pendant 10 ans, ça va durer comme ça, entre 610, date de l'apparition, et 622, plus de 10 ans, il va être un peu persécuté pour des raisons qui tiennent essentiellement au commerce.
Mais persécuté très très violemment.
Il est protégé quand même par son oncle Abou Talib qui le protège même s'il n'adhère pas à l'islam.
Absolument, oui. Son oncle sera toujours de son côté, mais quand on parle de persécution, elles ont été très très violentes. Il a failli être assassiné.
Mais pourquoi, Jean Prieur? Parce que on vient de l'entendre. Au fond, ce dont se méfient des notables de la Mecque, c'est l'idée d'un dieu unique. Or, ils existent déjà, y compris justement en Arabie. Il y a déjà le christianisme, il y a déjà le judaïsme qui sont monothéistes. Qu'est-ce que les messages transmis par Mahomet apportent de nouveau? Autrement dit, en quoi l'islam est nouveau par rapport aux religions qui l'ont précédé?
C'est-à-dire que le christianisme avait déjà dévié. Il y a eu quand même une cinquantaine d'hérésies avant que paraisse Mahomet. Le christianisme était très, très déchiré. Et puis, les provinces chrétiennes d'Orient, c'est-à-dire Syrie, Irak, Égypte, Libye, ne supportaient plus la pression fiscale qui était très forte.
Oui.
Et c'est par là que tous les régimes périssent. Il y avait une sorte de révolte latente. Et puis les conciles avaient déchaîné les passions. Les bons pères se battaient au cours des conciles. Et le dernier, celui de Chalcédoine, c'est Chalcédoine, n'est-ce pas, qui a formé la Trinité. Au début, c'était C'était simplement l'habilité.
Oui, mais en ce qui concerne le contenu même du message, indépendamment même des divisions qui pouvaient déchirer le christianisme, qui effectivement est victime de plein de schismes à cette époque-là, il y a les mêmes messages, il y a la paix, il y a c'est en ça qu'on voit pas très bien ce qu'il y a de nouveau et en quoi ça correspond à un appel. D'ailleurs, au fond, au début, Jean Prieur, vous-même vous le dites, il n'y a personne, il y a son ami Abou Bakr, il y a Omar, qui seront les deux premiers successeurs, les deux premiers califes de l'islam, il y a un esclave noir, Bilal, qui sera le premier Mouezzin. Il y a Ali aussi, il y a la femme de Mahomet. Et puis alors, surtout, Mahomet, alors ça c'est assez curieux, parce que dans les extraits de film qu'on vient de passer, dans le film, on ne voit ni le visage de Mahomet et on n'entend pas sa voix. Il est donc interdit, c'est bien connu, de le représenter. Cela dit, ses fidèles ont malgré tout fait son portrait, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, Mahomet est un prophète envoyé par Dieu, mais ses dimensions divines ne l'empêchent pas d'être un homme, en chair et en os, bien physique. Alors, à quoi ressemble-t-il, si l'islam donc interdit de le représenter, de peindre son visage? Des textes nous donnent tout de même quelques portraits de lui. Alors, une chose est sûre, ils sont unanimes, Mahomet est beau et il irradie autour de lui. Alors, on lit dans la sunna c'est l'ensemble des textes, les hadiths, dits de l'authentique tradition musulmane. Alors, on lit ceci. Son visage était beau, a dit El Bara. Depuis, je n'en ai jamais vu de pareil. Alors, une beauté qui semble avoir quelque chose de surnaturel. Je n'ai jamais touché de la soie plus douce que la main du prophète. Je n'ai jamais flairé de musc ni d'ambre exhalant un parfum plus délicieux que l'odeur du très saint prophète. Alors, on en sait un peu plus sur Mahomet grâce au témoignage d'Ali, le cousin de Mahomet. Alors, les deux se connaissent depuis l'enfance, ils s'aiment comme des frères. Il sera d'ailleurs un des premiers à se convertir à l'islam et il épousera même la fille du prophète, Fatima. Alors, sa description physique de Mahomet est étonnamment détaillée, vous allez voir. Il était de taille moyenne, ses yeux étaient noirs, son visage entouré d'une barbe bien fournie, ses cheveux épais et brillants lui tombaient sur les épaules. Tantôt il laissait tomber les cheveux de sa tête naturellement, tantôt il les portait noués ensemble en deux ou quatre boucles. Alors, mis à part le visage, Mahomet, tel que nous le présente donc son cousin, est un homme exceptionnellement peu poilu, bizarrement, et d'aspect très jeune, semble-t-il. Il avait, de la poitrine jusqu'au nombril, une ligne de poils si mince qu'on aurait dit tracée avec un calame. Un calame, c'est un roseau qui servait à l'époque à écrire. Mais il n'avait point d'autres poils sur la partie inférieure du corps. Et à 63 ans, sur tout son corps, l'âge n'avait encore fait blanchir qu'une quinzaine de cheveux et 10 à 20 poils de sa barbe. En Mahomet semble aussi extrêmement gracieux, avec une aura à laquelle visiblement il est difficile de rester insensible. Sa démarche était si énergique, dit Ali, qu'on aurait dit qu'il détachait ses pieds de la terre, et cependant si légère en même temps qu'il semblait voltiger de haut en bas. Mais il ne marchait jamais avec fierté, comme les princes. Il y avait dans son visage tant de douceur qu'une fois en sa présence, on ne pouvait le quitter. Si l'on avait faim, on était rassasié en le regardant et l'on ne songeait plus à la nourriture. Tout homme affligé oubliait son chagrin quand il était en sa présence, charmé par la douceur de son visage et de sa parole.
Donc on décrit pas mal Mahomet dans ses textes qui sont effectivement issus du Coran pour la plupart.
Oui.
C'est assez que... Oui.
Il avait... Une aura, parce que ça c'est bien connu maintenant, n'est-ce pas? Et cette aura a été perçue, alors qu'il n'avait que 13 ans, par ce moine Bahira, qui aussitôt était émerveillé en voyant ce jeune homme et lui a prédit un grand avenir. Donc il a été vraiment au début salué par les chrétiens. Il est revenu quelques années plus tard, Bahira n'était plus là, il était mort, mais... Un autre moine nestorien l'avait remplacé et lui aussi a été fasciné par par le visage, enfin par toute la personne de Mahomet. Et moi je pense que ce sont ces deux personnages qui l'ont initié au christianisme. Et alors il a eu aussi un autre initiateur, c'était Varaka, n'est-ce pas, cousin de sa femme Khadija, et qui était très très versé dans les écritures. Parce que tout de même on sent que Mahomet a connu au moins les évangiles. D'ailleurs,
Mais d'ailleurs, il faut rappeler que l'islam, selon l'islam, Mahomet, c'est le dernier prophète, la suite d'une très longue descendance.
Oui, c'est ça.
Adam, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Noé, il y a même Jésus, qui sont tous reconnus comme des prophètes par le Coran, par l'islam.
Exactement. Oui.
Et à quoi correspond ce refus de représenter sur des peintures ou dans des films, de représenter justement le visage du prophète? On le voit partout, soit voilé, soit à sa place de sa tête, on voit une flamme.
Mais cela vient du décalogue de Moïse. C'est le deuxième commandement. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel ou sur la terre. Ça vient de là.
Extraordinaire, c'est la parenté par rapport effectivement à la Bible.
Et oui. Il y a eu cette grande querelle justement de l'iconoclasme à Byzance. Mmh. Parce que, justement...
On représentait Dieu.
Ouais. On représentait Dieu, la Trinité. Mmh. Et il y a eu, donc, deux courants, l'iconoclasme, parce que les iconoclastes étaient finalement de la vie des musulmans, ils ne voulaient pas adorer les images.
Alors, il y a une parenté, donc on le voit entre les religions. Cela dit, encore une fois, pendant 11 ans, entre son apparition de l'ange Gabriel et l'arrivée à Médine, Mahomet ne rassemble qu'un très petit nombre de fidèles, et puis il s'en va justement à Médine, qui est à 350 kilomètres au nord de la Mecque. Pour quelle raison? Parce que c'est une date qui est capitale dans l'histoire de l'islam.
Mais pour la simple raison que sa vie était en danger, sa vie, et puis alors celle de ses compagnons. Alors il y a eu ce qu'on appelle l'égire, mais elle s'est faite peu à peu, c'était une fuite discrète, petit groupe par petit groupe, les premiers musulmans se retrouvaient à Médine.
Vers Médine, dont les habitants d'ailleurs souhaitaient l'arrivée de Mahomet, parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils voulaient que Mahomet règle leur querelle. Médine donc, où Mahomet arrive en 622, accompagné par 75 pèlerins.
Sois le bienvenu dans la cité de Médine, la bénie. Ta cité, messager de Dieu.
Tu vas habiter sous mon toit, messager de Dieu. Je possède la plus belle demeure de Médine. Tu me feras un grand honneur en la partageant.
Je t'offre mon toit.
Silence.
Comment le prophète pourrait-il bien choisir parmi tant de sollicitudes?
Que Dieu guide les pas de sa chamelle. Et où elle s'arrêtera, nous bâtirons une demeure.
Ce n'est pas bête. Le choix fait par une chamelle n'offensera personne.
Ici, nous allons bâtir la maison du prophète.
Et aussi notre premier lieu de réunion où nous pourrons prier. La première mosquée de l'islam, ici.
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Mahomet.
Et puis c'est à Médine, effectivement, qu'a été construite la première mosquée, lancé le premier appel à la prière par Bilal, l'esclave noir qui accompagnait Mahomet. En 622, c'est aussi la première année du calendrier musulman. Au fond, on peut dire que l'islam commence, non pas au moment de l'apparition de Gabriel, mais lorsque, effectivement, est fondée la première mosquée à Médine, la demeure, Jean Prieur. Est-ce que c'est parce que, pourquoi? C'est parce que l'islam sort, au fond, de la Mecque. Enfin, les messages de Mahomet sortent pour la première fois de sa ville.
Oui, et il n'a de cesse de reconquérir la Mecque. C'était le passage le plus important de sa vie.
On y reviendra, mais il va rester quand même 10 ans à Médine. C'est la date de naissance de l'islam. Alors à Médine, justement, il fonde, au fond, ce qui va s'appeler l'islam, il faut rappeler quand même l'origine peut-être du mot islam, qui est soumission, je crois.
Soumission, moi je préfère abandon. C'est l'abandon à la volonté de Dieu. Parce que soumission à quelque chose d'humble qui est assez désagréable. Mais abandon est bien.
Et puis musulman, qui veut dire justement celui qui se soumet à Dieu. Alors pour se soumettre, Mahomet va utiliser plusieurs moyens. D'abord, il devient à Médine, non plus seulement un prophète, mais aussi chef de guerre. C'est par la guerre, il va entreprendre une guerre de 10 ans contre les Mécois.
Oui, mais alors là, contraint et forcé, parce que les Mécois attaquent ces caravanes. Non, véritablement, ce sont...
Oh, il les attaque aussi, hein, les ah, Razzia, oui, c'est une tradition hein, dans la région. Et puis alors, il devient aussi homme d'État. Médine devient une théocratie dans laquelle Mahomet commence à fixer toutes les règles, jusqu'à dans le moindre détail, oui, des habitants de Médine.
La constitution de Médine, mais qui est tolérante, qui est assez large.
Enfin, c'est la charia, déjà, c'est drôle. Bon, d'ailleurs, qui emprunte beaucoup à la législation qui avait cours, d'ailleurs, dans la région. Il y avait aussi la circoncision qui est empruntée, je crois, tout simplement aux Juifs. Hein.
Vous savez, dans le Coran, il n'est pas question de circoncision ni d'excision. Mm-hmm. Il y a des quantités de choses...
Non, mais même le Coran n'existe pas encore, vraiment. Il n'a pas été rédigé. Mais à ce moment-là, il y a quand même des règles qui seront celles de l'islam. Il y a aussi les 5 obligations de l'islam, la profession de foi, la prière, 5 fois par jour. Oui. D'abord en direction de Jérusalem, puis on s'est tourné ensuite vers la Mecque et vers la Kaaba. Il y a l'aumône, il y a le jeûne, hein, le fameux Ramadan, et puis il y a le pèlerinage, le rêve de revenir un jour à la Mecque.
Oui. Ben, le pèlerinage, il y a aussi la mosquée d'Omar. Hein.
En tout cas, bon, la Mecque, c'est quand même un peu ce dont rêvent tous ceux qui accompagnent, qui sont à Médine avec Mahomet. Et d'ailleurs, pèlerinage que Mahomet va faire lui-même en revenant à la Mecque après 8 ans d'exil, le 11 janvier 630.
Ils arrivent ! Approchez-vous !
Ils arrivent de trois côtés !
Regardez !
Entrez chez vous !
Ne pourra être enfoncé, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofiane est en sécurité. Tout aux alentours de la Kaaba est en sécurité.
Regarde, le voilà. Il peut enfin entrer dans la Kaaba.
Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorez nul autre Dieu que Dieu et purifiez sa demeure.
Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu!
C'était le retour à la Mecque de Mahomet, hein, qui détruit les idoles, vous l'évoquiez au début de l'émission, hein, Jean Prieur, et qui est accueilli par une population qui finalement elle-même s'est soumise, même le shérif, le chef de la Mecque, Abou Sofiane, qui était son ennemi juré, finit par accepter son retour. Ils sont entrés pacifiquement dans la Mecque.
Oui. Parce qu'au fond, ces gens-là, les Mécois d'alors, ne croyaient pas à grand-chose. Il n'y avait pas une religion bien constituée, pas du tout.
Alors, ce qui est extraordinaire, bon, 2 ans après, Mahomet meurt, et puis c'est sa succession donc est prise par les califes, c'est-à-dire successeurs, hein, et il meurt en 632. Oui. Et à l'époque, bon, l'islam est adopté pratiquement par toutes les grandes villes d'Arabie, mais reste en Arabie. Et en l'espace d'un siècle, hein, puisque c'est en 732 que les musulmans arrivent à Poitiers, en l'espace d'un siècle, cette religion va s'étendre dans tout le pourtour sud de la Méditerranée jusqu'à Poitiers, et Espagne oui. comprise, et jusqu'en Inde. Comment est-ce qu'on peut expliquer la rapidité avec laquelle, justement, l'islam s'est propagé?
Bon, par exemple, quand Omar est entré à Jérusalem, il a été acclamé.
Et Omar qui est le deuxième successeur, je crois, de...
Oui, il a été acclamé et il n'y a eu aucune violence faite soit contre les synagogues, soit contre les églises. Donc les religions ont été respectées. Et il en a été de même quand ils sont entrés à Damas, à Alexandrie. Et c'est Alexandrie, évidemment, qu'ils ont été le plus acclamés, parce que Alexandrie, c'était la patrie d'Arius.
Enfin, Arius. Il faut rappeler, hein, qui était Arius. C'était en fait, il y avait un schisme dans le monde chrétien, c'est pour
oui,
cette raison-là.
Oui. Arius déniait à Jésus la qualité de Dieu. Il disait, Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Mmh. Et il disait cette chose, un fils ne peut pas être du même âge que son père. En fait, c'était le bon sens. En général, les religions se moquent pas mal du bon sens. Mmh. Et donc, alors, l'islam pénètre facilement en Égypte, en Libye, en Afrique du Nord, là, les Berbères, qui étaient la population d'origine, les Berbères ont résisté. Mais ils se sont aussi convertis, et c'est un Berbère, Tariq, n'est-ce pas?
Oui, parce que bon,
qui a conquis.
Les Arabes n'auraient pas été assez nombreux, effectivement, pour pouvoir s'étendre sur un tel empire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est 13 siècles après Jean Prieur, on peut dire que l'islam, dans sa partie la plus extrémiste, c'est celui malheureusement dont on parle le plus, qu'est-ce qu'il a comme rapport avec le message de paix initial de Mahomet?
Ben oui, justement, pas beaucoup de rapports. Moi, je vois entre les islamistes violents d'aujourd'hui et le prophète, qui était quand même un homme foncièrement bon, je vois la même distance qu'entre Jésus et l'Inquisition.
Mmh. Parce que, oui.
Ben oui, l'Inquisition d'Espagne.
C'est-à-dire, oui, une distance très grande, c'est ça que vous voulez dire.
Une distance très grande. Ouais. Mais je disais qu'ils avaient pénétré, que les Arabes avaient pénétré facilement dans tout l'Orient chrétien et également en Espagne. Et pourquoi? Parce que les Visigoths qui régnaient alors étaient ariens, donc disciples.
Au fond, ils ont exploité les divisions qui pouvaient exister dans le monde chrétien. C'est ça qui a fait la force, surtout de l'islam. C'est ça que vous voulez dire, Jean-Pierre?
Oui. Et puis alors, les Juifs qui étaient quand même assez nombreux en Espagne, pour eux, qui étaient persécutés et maltraités par les chrétiens. C'était une sorte de libération.
Merci Jean Prieur. Je vous rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Muhammad, donc prophète d'Orient et d'Occident, et qui a été publié aux éditions du Rocher. À lire également Les Sarrasins de John Tolan, qui vient de paraître chez Aubier, et puis Mahomet, la parole d'Allah, d'Anne-Marie Delcambre, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Message de Mustapha Akkad, distribué en cassette vidéo par Scherzo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka et Patrick Henry, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'origine des langues ou comment on est passé du langage aux langues, mais tout de suite à 14h30, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche.